Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme celui d'il y a 2 semaines, pendant cette trêve estivale, nous vous proposons un épisode d'un autre podcast dans lequel moi, Isadora qui parle aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être invitée. Il s'agit du podcast Ayo Néné, tenu par Adia, dont le but est de partager des récits, des discussions sur la maternité multiculturelle. J'y partage ma vision de la maternité et de mon enfance en Afrique qui m'a permis de me construire et de me sentir libre et bien sûr d'essayer d'apporter ce bagage culturel à ma fille Alba. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Ayo Néné et de la suivre sur Instagram Ayo Néné-du-8 podcast. Je vous souhaite une magnifique écoute. À très vite.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ayo Néné. Alors si ce n'est pas la première fois que vous écoutez un épisode, je vous dis merci d'être là de nouveau. Et si vous venez d'arriver, alors sachez qu'ici nous parlons de maternité multiculturelle. Dans chaque épisode, j'interviewe des mamans géniales qui vont nous raconter leurs histoires, leur parcours, leurs déboires et leur bonheur. Et nous parlons surtout d'éducation et de la transmission des cultures dont nous sommes issus à nos enfants. Mon invité du jour est Isadora. Vous l'avez sûrement vu en compagnie de sa sœur jumelle Marisa sur YouTube ou alors sur Instagram, ou peut-être que vous l'avez entendu via leur podcast Intention. Isadora va nous raconter son éducation entre la France, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc, et comment toutes ces expériences ont fait d'elle la maman qu'elle est aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un commentaire et à venir en parler sur Instagram. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Isadora. Isadora est youtubeuse, elle est podcasteuse, elle est surtout entrepreneur, mais depuis peu, elle est aussi une maman. Alors bonjour Isadora, merci d'être là aujourd'hui.
Bonjour à toi, ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir. J'ai découvert ton podcast puisque tu m'en as parlé sur Instagram. Ouais. Et j'ai adoré, j'aime beaucoup l'idée de ce podcast. C'est une niche différente et je pense que ça manquait aussi dans cet univers-là, donc bravo pour l'initiative.
Merci à toi, c'est super gentil. Alors, dans un premier temps, même si j'ai un petit peu parlé de ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors oui, je suis Isadora, j'ai 33 ans, je vis dans un petit village à côté de Angers, donc je suis loin de l'entrepreneuriat parisien dont on parle très très souvent. Mmh. Moi je vis à la campagne, je suis maman d'une petite fille de 19 mois qui s'appelle Alba, je suis en couple avec Mathieu depuis presque 8 ans maintenant, et je suis entrepreneur, donc j'ai ouvert ma première boîte il y a un peu plus de 5 ans, c'était une boîte de e-commerce qui vendait des box de snacks sains. Et depuis le mois de septembre, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Intention. C'est une plateforme digitale pour accompagner nos membres vers une alimentation plus saine. Donc voilà, et je suis aussi, comme tu disais, youtubeuse avec Marisa, ma sœur jumelle, avec qui de toute façon je suis associée dans l'entreprise. Je suis sur Instagram aussi, on appelle communément ça influenceuse, mais bon, c'est un terme que j'apprécie pas, moi je suis plutôt entrepreneur.
D'accord. C'est vrai que tu as plein de casquettes et au final, moi je vous suis depuis un petit moment et ouais. Je trouve que c'est cool parce que vous avez vraiment votre univers, vous avez changé parfois, donc par exemple vous aviez Snackies au début puis après vous avez eu Intention, mais peu importe les changements ou les nouvelles choses que vous allez apporter, ben, on vous suit. On va avec.
Et c'est ça qui est fou.
Ouais. Et c'est super intéressant.
Parce que je pense que on change, mais quelque part, oui, on avait une boîte de snacks sains, donc c'est du e-commerce. Maintenant, on est plus dans le digital, mais quelque part, le discours qu'on a est toujours le même. Ça n'a pas changé complètement notre discours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Finalement, on parle toujours d'alimentation saine parce que quand on avait notre boîte à l'époque, on parlait de snacks sains, mais sur nos réseaux sociaux, on parlait toujours d'alimentation saine, d'une hygiène de vie plus saine, etc. Donc, quelque part, il n'y a pas eu un fossé entre l'ancienne entreprise et l'entreprise actuelle.
Oui, non, clairement.
Je pense que ça joue.
Ouais, oui, puis c'est bien. Enfin, vous partagez ça, vous partagez aussi votre vie d'entrepreneuse.
Oui.
Donc voilà, on a plusieurs actes pour lesquels vous suivre. Ouais. Et encore une fois, bah c'est cool.
Bah merci beaucoup.
Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle origine est-ce que tu es?
Alors moi, je suis franco-camerounaise. Donc j'ai ma maman qui est française avec des origines polonaises. Ouais. Sa grand-mère est polonaise, donc elle est venue ici. Pendant la crise, on va dire, les guerres, etc., elle est arrivée en Picardie, donc ma mère est picarde. Elle s'est mariée avec un Français en Picardie. Ma mère est donc picarde franco-polonaise et mon père est camerounais. Lui, il est né au Cameroun et je suis née là-bas aussi avec ma sœur jumelle d'ailleurs.
D'accord. Et ben justement, quand on s'était parlé, tu m'avais raconté un petit peu ton enfance, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enfance de globe-trotteuse?
Alors, donc moi, je suis née avec ma sœur au Cameroun. Donc moi, mes parents, ils se sont rencontrés en France, puisque mon père est arrivé en France très jeune. Il devait avoir, je ne vais pas dire de bêtises, parce que mon père parle très, très peu de sa jeunesse. Donc, il faut toujours le questionner énormément. Et là, il répond, mais ce n'est pas facile d'avoir une vraie histoire. Donc, il est arrivé, il me semble, il devait avoir 10 Ouais, je dis 17 ans, 16-17 ans, en France, tout seul, c'est l'aîné. Hein, donc, comme on dit en Afrique, l'aîné, c'est celui qui est voué normalement à faire le plus de grandes choses, on va dire. Donc, il est arrivé en France, il a rencontré ma mère en France et ils ont décidé de partir au Cameroun pour que mon père puisse terminer en fait ses études puisqu'il faisait des études d'expertise comptable. Ils sont partis, on est né là-bas, on est rentré très vite. En France, je pense qu'on est rentré, on n'avait même pas encore un an, parce qu'en fait, quelque part, mon père pensait que retourner dans son pays, ce serait chouette, qu'on l'accueillerait à bras ouverts, etc. Et en fait, la vérité, c'est qu'il est venu avec une blonde aux yeux bleus, une blanche, et que ça a été plus difficile, en fait, pour eux de s'intégrer. C'est une autre époque, hein, c'est peut-être que c'est différent maintenant, hein, mais on parle là des années 80, donc c'était quand même différent. Donc, ils sont vite rentrés, finalement, en France avec nous, où on est resté 8 ans en région parisienne. Et puis au bout de 8 ans, mes parents, ils avaient envie de retourner en Afrique parce que mes parents adorent l'Afrique. Donc très vite, ils ont voulu retourner un petit peu en Afrique, mais pas retourner au Cameroun. Ils ne voulaient pas. Donc on est parti vivre un an en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est parce que mon père, en fait, il avait ce truc à l'époque d'envoyer des CV. C'était un peu un grand jeu dans notre famille. C'était « j'envoie des CV » dans des grands groupes, parce qu'il est expert comptable généralement dans des grands groupes comme KPMG, Grand Thornton, etc. Les personnes connaissent quand ils sont un peu dans le milieu. Et il envoie des CV un peu partout. Et le premier qui répond, on va dire un peu positivement, ouais. Ben en fait, on fait nos valises et on y va. C'était un peu le jeu quand on était jeune.
C'est cool.
Donc la Côte d'Ivoire, c'était chouette parce que mon père avait des amis en Côte d'Ivoire. C'est ça le truc aussi d'être arrivé très jeune en France. Il s'est retrouvé dans un lycée, dans des écoles, avec beaucoup aussi de personnes comme lui qui venaient de différents pays d'Afrique. Et en fait, quelque part, il se regroupait entre Africains, mais ça se trouve aussi dans d'autres origines. Hein, de toute façon, oui. Ce côté, on va vers nos pères quelque part. Oui, on se reconnaît entre nous.
Exactement.
Donc lui, la plupart de ses amis étaient des Africains qui venaient du Togo, du Bénin, du Mali, qui arrivaient au Havre. En plus, mon père lui a débarqué au Havre. Donc lui, il ne connaissait pas la France. Il ne connaissait rien de la France, rien du tout. Son père l'a amené dans un train, dans un avion, ensuite dans le train à Paris et direction le Havre. Lui n'a connu finalement que ça au début, c'était le Havre. Donc quand même, passer du Cameroun au Havre, faut le faire.
Ouais, et puis il y a un sacré gap.
Ah ouais, il y a un sacré gap. Il est très vite parti après à Toulouse pour retrouver un petit peu le soleil qui lui manquait. Et on est allé en Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'il avait reçu déjà une réponse positive. Et en plus de ça, un de ses meilleurs amis, qu'il avait connu au Havre, à Toulouse, etc., vivait là-bas. Donc du coup, ça leur a permis de se dire, on va dans un pays africain qu'on ne connaît pas, mais au moins on a des amis là-bas. Donc on y est allé un an. Au bout d'un an, encore une fois, nos parents qui nous disent « Oh, ce serait bien qu'on change un petit peu d'air, qu'on aille voir ailleurs. » Donc, mon père a encore envoyé des CV. C'est le Maroc qui a répondu. Donc, on est parti 2 ans vivre au Maroc. Mais comme ça, c'est toujours sur des coups de tête. Faut pas imaginer que c'est des... Nous, on n'a pas grandi avec le côté « il faut faire des planifications sur le long terme ». Ouais. D'où aussi comment je suis dans la vie de tous les jours. Parce que nous, c'est toujours sur un coup de tête.
Mes parents vont dire...
C'est au jour le jour, parfois on finit même pas l'année scolaire parce que c'est j'ai reçu une candidature positive, ok c'est bon on y va. Donc on est parti 2 ans au Maroc, au bout de 2 ans mes parents se sont dit bah, si on retentait, donc on est parti vivre au Sénégal, 1 an, donc là c'était la 4e pour nous. Et au bout d'un an, là mes parents n'ont pas spécialement, ils avaient besoin de retourner au Maroc je pense. Et du coup, on est retourné 2 ans au Maroc, ouais, jusqu'à notre lycée. Et au lycée, par contre, nos parents nous ont dit, on préfère que vous passiez le bac en France. Donc, on est rentré en France, on avait 16-17 ans.
D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé, le retour en France ?
Dur. dur. Ouais. Quand ça fait... T'es parti... En fait, déjà, quand nous, on est parti, mm-hmm, on avait 8 ans. Mais nous, on n'était jamais allé en Afrique, à part être né en Afrique et à part être allé en vacances en Afrique, on n'était jamais vraiment... aller en Afrique, tu vois. Mmh. Et puis l'Afrique que je connaissais, moi, c'était le Maroc. C'est là où on allait très souvent au Maroc, nous, puisqu'on a des amis aussi au Maroc. Donc on allait très souvent là-bas. Donc pour moi, c'était ça l'Afrique, si tu veux. J'ai beau être camerounaise, moi, je connaissais pas l'Afrique noire. Mmh. Voilà. Je connaissais pas. Et du coup, ils ont dit qu'on partait en Afrique, mais moi, c'était, enfin pour nous, pour Marisa et moi, Marisa, donc c'est ma sœur jumelle. On a notre grand frère aussi, mais notre grand frère, lui. Il a plus kiffé, lui connaissait déjà l'Afrique noire, il était déjà parti faire des missions humanitaires avec mes parents. Ils sont très comme ça aussi, mes parents, les missions humanitaires, c'est trop leur truc. Donc ils partent quelques mois au Niger avec mon frère, c'est parti 3 mois, il me semble, au Niger pour construire des écoles, des puits, etc.
Ah, c'est cool.
Pendant l'été, voilà, c'était les vacances d'été de mon frère et ils sont partis tous les trois. Et nous, on avait refusé d'y aller parce que nous, l'Afrique, ça nous faisait peur avec ma sœur. Nous, on imaginait l'Afrique comme... ce qu'on voit à la télé, mais plutôt, tu sais, ce qu'on voit un peu dans les livres pour enfants.
Ouais.
C'est un peu la brousse. Mm. Tu vois, c'est, pour moi, c'est pas possible que l'Afrique y ait des appartements, des immeubles, des routes, ouais, des voitures. Pour moi, je remets dans le contexte, hein, j'avais 7-8 ans. Hein, mm. C'est pas la fille que je suis actuellement. Mais du coup, nous, on n'a jamais voulu y aller. Et quand ils nous ont dit, maintenant, on part en Côte d'Ivoire, pour moi, c'était l'horreur. C'était, mon Dieu, on va avoir des lions tout autour de nous, on va vivre dans des cases.
Les gens sont pas habillés.
Les gens sont pas habillés, ça va être du pagne partout. Alors ça ne change pas. Oui, ouais, il y a du pagne partout. Mais c'était une agréable surprise, en fait, d'arriver en Afrique et de voir, en fait, quelque part, on vit comme on vit en France, avec quelques, bien évidemment, une particularité complètement différente, puisque l'Afrique, c'est magique et en même temps. Ah, ça rime. Est-ce que c'est fait exprès? C'est un tout autre mode de vie, mais nous, qu'on a adoré. Pour moi, j'ai vécu 6 ans en Afrique, donc en plus des pays complètement différents. Pays, par exemple, bon, même s'ils ont tous plus ou moins différentes religions, mais par exemple, la Côte d'Ivoire avec une prédominante chrétienne. On arrive au Maroc où c'est une prédominante musulmane. On arrive au Sénégal où c'est beaucoup plus musulman que catholique et ça. Donc, il y a pas mal de cultures, de choses différentes, et nous, on a adoré. Quand on nous a dit qu'on retournait en France, ça a été très dur pour Marisa et moi. Je parle pour moi parce que mon frère, lui, ou pour nous, parce que notre frère, lui, était très content de rentrer. C'est lui, d'accord, qui a demandé, bien avant nous, de rentrer en France. Il voulait retourner à Paris, lui. Pas nous. Nous, ça a été très dur pour nous de se dire, on quitte cette vie-là, qui est une vie de soleil, de...
De confort aussi.
C'est confort. C'est sûr que l'Afrique, c'est confortable. Oui. Surtout quand tu as un bon niveau de vie.
Oui.
Ben, l'Afrique, c'est confortable. Tu as des employés de maison, tu as des gardiens, tu as des jardiniers, tu as un chauffeur. Ça n'a rien à voir avec la vie qu'on mène ici, où c'est nous qui faisons tout.
On fait tout.
voilà. En Afrique, on fait beaucoup de choses, bien évidemment, mais on a toujours... Et même les populations les plus, on va dire, les moins aisées, il y a toujours du monde à la maison. Donc, il y a toujours plein de gens qui font plein de choses. Ouais. Choses qu'on n'a pas ici en France. Et ça, j'ai découvert beaucoup plus tard, ça, quand j'étais plutôt, depuis que je suis maman, en fait, je me rends compte vraiment de la différence. Et quand on est revenu en France, ça a été dur, surtout pour moi, parce que moi, je me suis retrouvée dans une école privée catholique en plein 15e arrondissement, alors que Marisa, elle, était dans une école publique normale, dans le 15e arrondissement aussi.
Donc, elle y avait
du coup, on n'avait pas la même. Ah, complètement. Marisa, il y avait plein de nationalités différentes, plein d'origines différentes. Pas nationalité, parce qu'on est tous plus ou moins français, mais d'origines, on va dire, différentes. Quand moi, dans mon école privée catholique dans le 15e arrondissement, j'étais une des seules noires. Donc déjà, j'arrive, je ne me reconnais pas. Alors que moi, pendant des années en Afrique, je me reconnaissais, même si, encore une fois, comme je te l'avais dit déjà quand on s'était eu au téléphone, c'est compliqué de se reconnaître quand on est métisse. Oui. C'est très compliqué. Parce que dans tous les cas, en Afrique, on nous regarde. En France, on nous regarde. Donc,
En Afrique, t'es blanche et ici, t'es noire.
Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais au moins, tu vois, j'avais mon père qui était noir et en Afrique, c'était rentré dans le truc, tu vois. Et moi, j'arrive dans un lycée catholique où je suis la seule. Et je me souviens très bien d'une des premières phrases, j'avais voulu me trouver des amis. Et une des premières phrases qu'on m'avait dites, c'était un mec qui m'avait dit, droit dans les yeux, nous, de toute façon, on ne compte pas te parler parce qu'on n'a rien compris. Parce que déjà, il fallait suivre tout ce que j'avais fait comme déménagement. On n'a rien compris d'où tu venais. En plus, comme tu es un pays africain, on ne comprend rien, donc on ne te parlera pas. Donc là, ça a déjà mis un peu l'ambiance.
Oui.
Moi, j'ai passé 2 ans, donc première et terminale dans ce lycée, qui a été pour moi 2 ans. Absolument terrible. J'ai détesté y être. J'étais pas du tout à ma place. Je sentais qu'on me mettait pas à ma place. Et ça a été une bouffée d'oxygène quand enfin c'était l'heure de la fac. Parce que la fac, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup ce côté multiculturel, notamment à Paris. Moi, j'étais à la Sorbonne. À la Sorbonne, il y a de tout. Enfin, je veux dire, des Noirs, des Rebeux, toutes les nationalités, toutes les origines se retrouvent. À la fac, donc c'est là que vraiment j'ai plus vu cette fracture entre moi et la France. Mais au début, ouais, c'était difficile les deux premières années.
J'imagine. Et puis enfin, c'est des choses qu'on subit aussi enfin un petit peu tout au long de notre vie. Donc on a un peu on peut un peu se blinder, mais quand ça arrive à un âge aussi tardif et de façon aussi violente, c'est vrai que enfin.
C'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile.
Surtout que j'en parlais pas à mes parents, parce que mes parents, pour le coup, quand on est revenu en France, on n'est pas revenu avec un contrat comme on avait fait par moi en Afrique, où on venait parce que mon père avait eu un contrat disant vous venez dans tel ou tel pays. En France, c'était un choix personnel de mes parents. Donc on est rentré sans que mes parents aient de travail, mais en pensant que de toute façon, mon père est expert comptable, il trouvera du travail facilement. Et en fait, pas du tout. Mon père, il commençait à avoir un peu plus de 40 ans, il était noir, et du coup, ce qui est drôle, c'est que là, on a vu la fracture, que lui n'avait pas vu toutes ces années en arrière, puisqu'il avait travaillé, parce qu'en fait, quand il était expert comptable en France, il était expert comptable en France, mais pour des groupes qu'il amenait toujours en mission en Afrique. Donc mon père, en fait, on l'a très peu vu quand on était petite, quand on habitait en France, parce qu'il était toujours en contrat... De temps en temps, il partait 2 mois en mission au Niger, 2 mois en mission en Gambie. Enfin, ça a toujours été comme ça, on l'a toujours vu partir. Mais il travaillait pour une entreprise française. Quand on arrivait en Afrique, il travaillait pour les entreprises internationales, mais en Afrique. Et en fait, il s'est rendu compte, quand il arrivait en France et qu'il a cherché du travail dans une entreprise française, mais sans avoir à partir en tant que personne qui part en mission en Afrique, et ben là, il n'y avait plus grand monde qui voulait de lui.
Oh là là. Et puis en plus, arrivé à 40 ans, ça reste aussi compliqué. Donc c'est vrai que c'était chaud. Et il a réussi au final à s'en sortir ou pas ?
Eh bien, il a décidé de monter son entreprise et d'ouvrir son cabinet, en fait. Donc il a ouvert son cabinet et du coup, qu'il a gardé jusqu'à là il y a peu, puisque maintenant il travaille avec nous. Mais à la base, oui, il avait décidé de faire un cabinet. Et il a eu la chance de retrouver plein d'autres clients qu'il avait eu des années auparavant en France. Mais ça a été compliqué. Pour lui, déjà, ça a été très dur pour toi en tant qu'enfant de rentrer chez toi le soir, d'être mal parce qu'à l'école, ça ne va pas. Mais qu'à côté de ça, ton père, il ne va pas bien parce qu'il ne trouve pas d'emploi.
Ouais.
Et pourtant, il avait un bon travail. Donc du coup, je n'en parlais pas. On en a parlé bien plus tard avec mon père parce que je ne voulais pas le mettre encore un peu plus... Et finalement, après, tout s'est très bien passé. Hein. Ça a été l'histoire de 2 ans, pour lui comme pour moi. Et puis après, la fac est arrivée et là, c'est un changement de vie total.
Ah, ça, c'est cool. Et au final, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé de toutes ces cultures dans lesquelles tu as baigné ?
Tellement de... Je dirais, la chose principale, c'est La bienveillance, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup sur les réseaux, mais c'est vrai, parce que quand on vit en Afrique, c'est vraiment un mot qu'on ne dit pas, mais qui se ressent. Les gens enfin, c'est encore une fois, c'est une majorité, c'est comme ça que moi je l'avais perçu, mais bien évidemment qu'il y a des gens malveillants, même en Afrique, hein, même partout dans le monde, hein, c'est comme
Bien
ça.
sûr.
Mais en Afrique, on a ce côté où il y a la misère qui est visible. Mais à côté de ça, c'est des gens qui sont profondément dans le partage, dans l'amour, dans le don d'eux-mêmes, même quand ils sont dans la misère. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que je me disais, nous en France, on a tendance à. Bah, quelqu'un viendrait, je ne sais pas, nous dire j'ai faim, on lui fermerait la porte au nez. Enfin, je veux dire, quelqu'un frappe à ma porte demain en disant excusez-moi, j'ai faim. Je pense que la plupart des gens diraient oh,
Ouais, désolé,
barre-toi.
j'ai rien pour
En Afrique, ce n'est
toi,
pas comme
ouais.
ça. On te connaît pas, on ne sait pas qui tu es. Tu peux galérer parce que nous, avec nos parents, on a fait tellement de voyages différents et parfois on n'avait pas d'hôtel. Et du coup, tu te dis, tu es dans un café, tu te dis, oh bah dis donc, vous n'avez pas un hôtel, je sais pas, une case à nous trouver. Puis tu as des familles qui disaient, mais venez dormir chez nous. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu en France,
Non,
jamais,
non.
jamais, jamais. Comment ça, un inconnu va venir dormir chez moi? C'est impossible, quoi.
Ouais.
Donc, moi, j'ai gardé tellement de positifs de cette période. Enfin, de toute façon, c'était une des meilleures périodes pour moi dans ma vie, c'était de vivre en Afrique. C'est ce côté, la bienveillance, le côté. En fait, on ne se prend pas la tête autant qu'on se prend la tête en France. Je trouve que tout était plus simple. Après, je n'étais pas une adulte. J'avais mes yeux d'adolescente.
Oui.
Donc, peut-être que maintenant, je dirais que c'est complètement différent. Mais c'est comme ça que moi, je voyais les choses un peu la légèreté, il fait beau aussi, donc c'est vrai que le sourire est beaucoup plus facilement sur les lèvres qu'en France où on se plaint beaucoup, c'est chose qu'on entend peu en Afrique, la plainte. Donc, de toute façon, c'est ma culture quelque part. Et merci à mes parents d'avoir fait découvrir l'Afrique plus tard parce que ça se trouve, je serais restée en France toute ma vie sans jamais avoir été de ma vie en Afrique, peut-être pour les vacances et encore tellement de connaissances qui sont africains ne sont jamais allés en Afrique alors qu'ils sont noirs et que leurs parents sont, je sais pas moi, maliens et ils ont grandi au Mali, ils sont venus plus tard après. Moi, je me dis, j'ai eu cette chance de quand même connaître l'Afrique sans me dire, je le connais via juste les yeux de mon père, par exemple. Ce
Non,
qui est
mais
difficile puisqu'il parle pas beaucoup, alors c'est très difficile d'avoir son prisme à lui.
Non, c'est clair et c'est vrai ce que tu dis, c'est super important parce que bah justement, moi c'est mon cas, par exemple, je suis d'origine sénégalaise, donc j'ai baigné dans la culture sénégalaise, je peux te cuisiner ce que tu veux, il n'y a pas de problème, je connais la musique, voilà. Mais au final, dans ma vie, j'y suis pas allée souvent, j'y suis allée peut-être 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois sur 31 ans, c'est pas énorme. Et t'as pas le temps de bien apprendre ta culture. Le plus longtemps où j'ai été, c'était 3 mois. Et c'est vrai que les 3 mois, ça a été quand même une vraie immersion parce que j'étais chez mon père au village, etc. Donc c'était une vraie immersion. Ah oui, c'était au village. Donc c'était une vraie immersion. Mais ça, pour moi, c'était pas suffisant. Tu n'en apprends pas suffisamment sur ton histoire, tu connais
C'est
pas
clair.
vraiment la famille qui est là-bas aussi. Ça va être des bonjours, au revoir. On s'appelle de temps en temps, mais tu connais pas leur vie au quotidien. Et donc tout ce que tu racontes au final, bah, c'est ça, c'est une chance. Vraiment, c'est une chance d'avoir pu grandir en immersion dans des pays en Afrique.
Ça, j'en ai conscience. Je me dis, c'est chouette parce que finalement, moi, je ne connais pas le Cameroun. J'y suis née, je suis partie quand j'avais 1 an et puis on n'est jamais retourné. Jamais, jamais. Et ni mon père d'ailleurs. Ils sont retournés avec Marie-Zam. Je pense que c'était il y a 5 ans. Ils sont partis 3 semaines et c'est la première fois que Marisa y allait après limite 25 ans. Et mon père, il n'était pas retourné aussi depuis toutes ces années. Donc ça a été quelque chose de beau pour eux. Moi, je n'ai pas pu y aller. Mais je me dis maintenant, en plus maintenant que j'ai un enfant, bah, j'aimerais aller parce que pour lui dire, bah, c'est là d'où tu viens aussi. Même si c'est compliqué à croire pour elle, pour le moment, c'est là aussi d'où tu viens. Donc, pour ne pas oublier. Et donc, elle ira automatiquement, c'est sûr, certain, au Cameroun pour voir ce que c'est aussi bah, là d'où on vient, en fait.
Ouais, clairement. Et donc, bah justement, je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais de ta fille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle? Son papa est de quelle origine?
Alors, son papa, il est français, c'est un bon normand. Lui, pour le coup, c'est Normandie de père en fils, comme lui, il aime se dire. Moi, je suis un gars de la campagne.
Ouais.
Donc, lui, il est normand. Donc, moi, je suis métisse, franco-camerounaise. Et ma fille, bah, on ne savait pas, en fait, ça qui était drôle, c'était de se dire à quoi elle va ressembler.
Ouais.
C'était un peu ce qu'on se disait quand j'étais enceinte. Bah, oh, à quoi elle, se ressemble, elle va ressembler? Est-ce qu'elle aura des traits, etc. Et alors déjà moi directement à l'échographie j'ai vu qu'elle avait des traits africains parce que j'ai vu le nez de mon père moi.
Ah.
Et il est toujours là, son nez. Mais c'est vrai que elle est blonde aux yeux bleus.
Ouais.
Donc elle est plutôt comme ma mère. Elle a pris du côté pour le coup polonais de ma mère, son côté. Mais comme mon neveu. Donc ma mère elle a eu déjà une première fille d'un premier mariage. Et donc ma grande sœur qui est Karine, elle a un fils de 22 ans, parce que moi j'ai oublié, pour moi il a encore 5 ans, mais non, il a 22 ans, et lui il est blond aux yeux bleus, exactement comme ma mère. Et Alba du coup est blonde aux yeux bleus comme ma mère et comme son cousin. Et c'est vrai que c'est... Alors perturbant pour moi, pas du tout, moi je ne me rends pas compte, c'est ma fille, donc pour moi je ne me rends pas compte. C'est perturbant dans le regard des autres, parce que moi je me balade tout le temps avec ma fille, hein, je suis tout le temps dehors avec ma fille, etc. Et on vit dans un village, et c'est vrai que c'est le regard des autres qui me fait me rendre compte que peut-être, potentiellement, c'est étrange. Parce que tu vois je vais marcher dans mon village, donc maintenant tout le monde sait qui je suis et que c'est ma fille, mais au début c'est vraiment très bizarre. Tu vois, on marchait avec Mathieu, Alba et moi, on marchait au bord de la Loire, et puis t'as des gens qui te regardent vraiment, etc., et qui viennent un moment vers toi, en plus je trouve ça hyper gonflé de venir accoster.
Ouais.
et nous dire excusez-moi, c'est votre fille à tous les deux?
Oui, tout paix.
Ah ouais, et toi t'es là, bah oui c'est ma fille. Ah non, mais c'est tellement... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle est quoi, blonde?
Et
bah, je sais pas, c'est le métissage, peut-être.
Bah, oui.
Enfin, c'est la vie de la génétique.
C'est clair.
Et en fait, je trouve ça très... En fait, pour moi, ça me perturbe pas, parce que moi, personnellement, je m'en fous. Je mets toujours... C'est à moi de lui apprendre aussi à ma fille, après, que tu es blonde aux yeux bleus, que tu es... française, que tu es aussi africaine, et qu'elle n'en ait surtout pas plus tard peut-être honte, parce que c'est vrai que quand les gens viennent te voir comme ça, en fait, rentre dans ta zone comme ça, quand tu es en train de marcher, bah, je me dis, moi, ça ne me dérange pas, je suis une adulte, mais peut-être que quand elle va commencer à grandir, avoir ces genres de réflexions, ça va peut-être la questionner, et c'est sûr que ça la questionnera.
Ouais.
Donc je serai là pour y répondre, mais j'espère qu'en effet ça ne lui posera pas question de se dire oui mais moi quand maman elle est à côté de moi, on me pose toujours des questions, moi j'aime pas quand maman est à côté de moi, parce qu'à chaque fois, parce que quand il y a Mathieu, quand c'est Mathieu tous les deux, il n'y a jamais de questions. Moi je suis allée une fois m'épiler les sourcils avec elle en porte-bébé, et la personne pendant qu'elle m'épile les sourcils, elle me dit mais c'est pas votre fille. Bah si, c'est ma fille.
Ah, c'est violent quand même.
C'est étrange quand même, elle est très blonde. Hein. Puis quand on va me voir, à chaque fois on va me dire bah, elle est toujours aussi blonde celle-là, on dirait toujours pas qu'une petite africaine. Et t'as là, mais en fait, pourquoi vous toujours ces mêmes réflexions?
Et c'est
le quotidien. C'est-à-dire quand je suis avec Alba, c'est au quotidien. Moi personnellement, je m'en fous. Moi ça me fait sourire, je m'en fous. Moi parfois je vais leur dire aux gens, vous savez, c'est la génétique. Moi ma mère elle est blonde aux yeux bleus, mon père est africain, je suis métisse, donc quelque part. Enfin, il n'y a rien de choquant dans la façon à quoi ressemble Alba, on va dire. C'est juste, moi je me dis toujours, pour elle, il va falloir qu'avec son père, on lui explique, et pas qu'elle puisse un jour, potentiellement, c'est ça qui me fait plus peur, on va dire, qu'elle ait un peu honte de se dire, mais à chaque fois que maman est avec moi, on pose plein de questions, et en plus on sait quand on est jeune, on n'a pas envie d'avoir, on va être comme tout le monde, on n'a pas envie d'avoir des questions insistantes sur pourquoi ta mère elle est métisse alors que toi t'es blonde, pourquoi toi t'es comme si, je le sais qu'on n'aime pas ça, donc là elle est petite encore, donc elle, voilà, j'ai encore du temps là pour trouver les mots, pour lui faire comprendre que bah, elle est africaine et c'est tout, et elle est aussi française et c'est tout, et qu'il n'y a pas à faire de monologue en 10 ans sur le sujet. Mais c'est vrai que ça pourrait potentiellement être une question qui viendra très souvent dans sa vie, ça c'est sûr.
Ah bah oui, clairement. Hein. Et puis vraiment, moi je trouve que les gens ont du toupet, quoi. Quand même, parce qu'au final, ils peuvent pas se dire que ça peut être ta fille. Donc t'es qui? T'es la nounou et tu la balades et puis voilà, tu vois.
Peut-être. Enfin... En plus, je fais jeune. Donc déjà, comme je fais jeune physiquement, déjà on me le dit souvent. Et j'ai beau dire, mais j'ai 33 ans, mais tu les fais pas. En plus de ça, j'ai un bébé de 19 mois qui, quand on est dans la rue, n'arrête pas de dire maman, maman, maman. Donc les gens se retournent en disant, donc je vois les regards, je suis pas folle, je les vois. Et en plus, bah, je les entends parce qu'ils viennent me le dire à moi. Mais c'est pas votre fille, c'est votre fille. Oh, c'est étrange, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et sur les réseaux sociaux, pareil. Sur les sociaux, quand je montre ma fille, donc pas, je ne montre pas son visage, mais elle est de dos, etc. Mais le nombre de fois, du moment où je fais une story avec ma fille, je peux être sûre d'avoir un message me disant « Mais comment c'est possible qu'elle soit blonde ?» Voilà. C'est très souvent cette question-là. « Mais comment c'est possible qu'elle soit blonde ?»
Non, mais c'est grave d'avoir... Bah oui, et avoir à justifier en fait le physique de son enfant, c'est quand même quelque chose. Hein.
C'est ça. Et c'est ça qui me. Dans ce monde où en plus on ne parle que de physique, que ce soit minceur, truc, il faut être dans des cases tout le temps. Et aussi, ce qui me perturbe quelque part, c'est aussi le fait que elle soit très souvent mise aussi sur un piédestal. Alors, très souvent sur les réseaux sociaux aussi, je reçois beaucoup de messages me disant mais qu'est-ce qu'elle est belle, blonde aux yeux bleus comme ça. Alors, je sais que le blonde aux yeux bleus, c'est quelque chose de pas seulement courant. C'est pas quelque chose qu'on voit partout dans la rue, les blonds aux yeux bleus. Ça, je le sais. Mais de là à les mettre un petit peu sur une sorte de meilleure personne de la nation, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est vrai que sur les réseaux, quand je la montre, on va me dire « Oh mon Dieu, comme elle est belle, blonde aux yeux bleus !» Et je suis là, pourquoi? Parce qu'elle est blonde aux yeux bleus, elle serait belle aussi si elle était brune et c'est les clair, yeux clairement. Ou si elle était métisse, ou si elle était noire, ou si elle était... Peu importe, je m'en fous. Moi, c'est mon bébé, donc moi, je l'aime comme elle est, quoi. Et si... En fait, c'est le fait de vivre en communauté, donc dans une ville, avec des gens, qu'on se rend compte du regard qu'on peut porter sur son enfant, alors que moi, je n'avais jamais fait gaffe, si tu veux. Oui, je vois qu'elle est blonde aux yeux bleus, je ne suis pas aveugle, mais ça m'a jamais... Comme ma mère l'est, moi, j'ai... Pour moi, elle ressemble à ma mère, elle ressemble à mon père, elle me ressemble, elle ressemble à son père... Il n'y a pas ce côté, elle est blonde aux bleus, mon Dieu, moi, je suis métisse, mon Dieu, mon père est noir, tu vois. C'est une considération que je ne porte pas, en fait.
Après, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes les cultures. Parce que, par exemple, moi, je veux voir un exemple avec, par exemple, ma mère, qui va parler de deux personnes, qui va dire « Non, mais sa sœur, elle est belle, elle est claire. » Enfin, voilà. Tu vois, tu te dis... Voilà, et ma mère, c'est... justement, le pire, c'est que ma mère, elle va dire des choses comme ça, alors que elle, en fait, ma grand-mère est d'origine libanaise, donc tous ses frères et sœurs, ma mère, sont clairs. Et ma mère, c'est la plus foncée. Et donc, elle a vécu ça quand elle était petite, tout le monde disait qu'elle n'était pas belle, que ses sœurs étaient plus belles qu'elle parce qu'elles étaient claires, et elle a gardé ça avec elle, et moi, je le revois encore aujourd'hui avec mon fils, parce que son père est mauritanien, mais les mauritaniens blancs. D'origine. D'accord. Et donc mon fils est clair aussi et on m'a souvent dit ça en fait, oh il est beau, j'espère qu'il va garder son teint, enfin des choses comme ça. Bah en fait non, et quand j'étais enceinte moi je me disais mais j'espère qu'il sera foncé parce que j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses là tu vois. Et
moi je j'avoue que c'est difficile, j'avoue que c'est difficile. Clairement. Moi j'ai connu la même chose de la part de mes, ça me rappelle trop mes tantes. Mais après c'est aussi notre génération, des personnes qui sont venues en France, qui ont dû tant bien que mal s'intégrer alors qu'ils n'étaient pas spécialement les bienvenus, à une époque où on avait vraiment besoin d'eux, et puis à une époque, finalement, quand nos parents, quand ils sont venus, c'est pas une époque où on avait besoin d'eux. C'est pas une époque où, finalement, c'est plutôt l'époque des personnes qui étaient, on va dire, un petit peu aisées et qui voulaient faire leurs études en France, ou des personnes qui fuient une guerre dans leur propre pays. Alors qu'à une époque, on avait besoin des Africains. Mais comme à une autre époque, c'était des Espagnols, des Portugais, enfin, il y a tellement, pour, par exemple, revivre après la guerre, pour reconstruire un pays, etc. Et c'est vrai que, du coup, nos parents, enfin, moi, je vois par rapport à mes parents, enfin, à mon père et à sa famille, parce que tous sont venus au fur et à mesure en France, ils sont venus de même, sans qu'on on les accueille et sans qu'on leur demande d'être là. Et du coup, ils ont tenté une intégration incroyable. Et moi, je vois mes tantes, mais moi, j'ai grandi toute mon enfance avec mes tantes qui mettaient tout le temps des perruques parce qu'elles ne supportaient pas leurs cheveux crépus, qui nous touchaient les cheveux tout le temps en disant tout le temps, mais vous avez des beaux cheveux parce qu'ils sont doux, ils sont doux, qui se décoloraient la peau. C'est très, très populaire à cette époque-là de prendre des. Ma tante, elle prenait toujours plein de produits en plus hyper toxiques pour se décolorer la peau. Et je me souviens que moi, j'habitais en Afrique, très souvent, mes copines, par exemple, sénégalaises, venaient toucher mes cheveux, toucher ma peau, en me disant « mais toi, t'es belle, mais toi, t'es belle ». Quelque part, c'est dans un contexte, je pense, de vouloir s'intégrer, coûte que coûte, et vite. Et quand on veut s'intégrer, ben, on veut quand même être un peu transparent. Et c'est difficile d'être transparent quand on est noir. C'est toujours ça, mon père. Hein. Papa, je ne vois pas comment tu peux devenir plus blanc que blanc. C'est pas possible. Et mes tantes, et c'est souvent très en plus féminin, parce que moi, je n'ai pas eu de côté de mes oncles, par exemple, ce côté de vouloir s'éclaircir la peau. Mais mes tantes et mes parents, enfin mon père, il a quand même, ils sont 9 frères et sœurs, donc je les connais tous. Et c'est vrai que la plupart des filles, en tout cas, ont essayé l'éclaircissement de la peau, les défrisages à gogo, les perruques blondes alors que tu es noire, donc la perruque blonde, c'est...
Ça le fait pas.
Ça le fait pas des masses, quoi. Et c'est, je trouve que c'est maintenant sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on arrive vraiment à une nouvelle génération de noirs en France qui sont fiers d'être noirs.
Ouais.
Je ne dis pas que mes parents ne le sont pas ou notre famille ne l'est pas. Ils le sont, mais ils le sont en tentant coûte que coûte l'intégration.
Ouais. Alors que nous, on revendique nos cultures.
Et c'est ça, exactement.
Et justement, on fait des podcasts, on parle de la multiculturalité.
Exactement. C'est ça. Et c'est normal, il faut... je pense que beaucoup, en plus, vous, par exemple, quand je dis vous, c'est vous, par exemple, toi, africaine, sénégalaise, mais qui ne connaît pas, quelque part, son pays. C'est hyper compliqué, je trouve, pour vous, d'être... Donc, le cul entre deux chaises. Je suis noire. Ouais. Donc, en France, pour tout le monde, je suis noire. Mais quand je suis au pays, comme mon père, quand lui est au pays, on l'appelle le blanc.
Ouais, clairement.
Alors qu'il est noir.
Ouais, non, c'est vrai. Et le pire, c'est que ça se voit immédiatement. Je t'avais raconté une fois où on était en Gambie avec mes sœurs.
Oui.
On est sortis d'un taxi brousse. On parlait pas, on était bien habillés. On avait nos pagnes, on avait notre ensemble en basin. Il y a un monsieur qui a dit « Elle est française !»
Ouais.
Et on s'est retourné et voilà, on le connaissait pas et on n'avait pas parlé, on n'avait rien dit, mais il nous a dit ça se voit sur vous en
fait. Ça se voit.
Se voit et c'est vrai que quand tu vis ça en fait, tu te dis c'est vrai que j'aurais aimé en fait venir plus souvent pour pouvoir m'intégrer un petit peu plus et ne pas en fait sentir que je suis différente ici aussi.
Ouais. Parce que on se demande à qui on appartient, où est-ce à ça. Qui où. Où est-ce que je suis à ma place, quelque part?
Clairement.
Parce que je suppose que tes parents, par exemple, ils sont sénégalais tous les deux, c'est ça?
Oui.
Tes parents, eux, ils ont tenté quand même de s'intégrer. Donc peut-être qu'ils... Moi, je vois mes parents, mon père ou même mes tantes, elles ne s'habillaient pas non plus en boubou dans la ville, tu vois.
Ouais.
On faisait à manger très souvent. Alors, dans notre petit comité restreint, on fait à manger camerounais. Mm. Mais quand on va recevoir, on va éviter. Tu vois, quand on reçoit, on va faire les repas, on va toujours dans l'optique de dans l'optique de l'intégration. Et moi je connais peu parce que quelque part ma mère est française, donc finalement moi j'ai cette double culture. Ouais. Mais quand je vais chez mes tantes, ben là c'est l'immersion, mais c'est incroyable parce que elle, c'est encore une fois, je le vois sur elle, le côté je suis africaine, je suis camerounaise. J'ai fait toute mon enfance au Cameroun, je suis là, donc il faut quand même que je réussisse à m'intégrer et socialement et dans professionnellement. Enfin, c'est pas facile. Donc ça, que je pense que la nouvelle génération qui arrive, donc toi par exemple, nous et même après, ça, enfin, il faut se dire, c'est à nous de dire, en fait, on a notre place quoi qu'il arrive.
Ouais.
Et qu'on ne doit pas avoir honte. Et si on veut avoir les cheveux qu'on a, et ben on les assume. Mais tu sais, moi, je me suis lissé les cheveux pendant des années, parce que je vivais dans un village, on vivait en France, dans des petits villages. Et excuse-moi, mais quand tu es métisse avec les cheveux bouclés, ou quand on te voit, on te dit tout le temps « Ah, les Jackson 5 !» ou « Ah, c'est Tina Turner !»« Ah, c'est Whitney Houston !» Tu vois, tout le temps, au bout d'un moment, tu as envie de t'intégrer. Mais ça, tu ne te rends pas compte, c'est tellement inconscient. Moi, je me suis rendu compte de ça plus tard, quand j'ai commencé à grandir, en me disant, mais moi, je me lissais les cheveux parce que je voulais ressembler aux Françaises que j'avais dans ma classe.
Ouais.
Et maintenant, j'assume complètement. Et maintenant, je me dis même, mais quel gâchis toutes ces années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas.
Ouais.
Mais on les sait tous.
À notre manière, et c'est vrai que ça peut rendre les choses parfois compliquées au quotidien.
Ouais.
Mais quand on s'en rend compte, en fait, c'est là où on a un petit peu tout gagné parce que on peut essayer d'améliorer un petit peu les choses. Et surtout, quand on a des enfants, faire en sorte de pouvoir leur transmettre notre culture malgré tout, même si on ne la connaît pas à 100%. Mais voilà, qu'ils sachent qu'ils sont français, ils vivent, ils ont une vie de français, clairement, mais qu'à côté de ça, y a autre chose.
Exactement, tout à fait.
Et est-ce que toi, il y a des choses conscientes ou inconscientes que tu fais pour transmettre ta culture à ta fille?
Là, vous ne me voyez pas, mais je lève les yeux pour me dire, je réfléchis. Des choses conscientes ou inconscientes? Alors, consciente pour la culture, je pense que c'est plutôt mon père, parce qu'il est très très proche de mon père. Très 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 proche. C'est même. Ils étaient là hier et dès qu'il est là, plus rien ne compte. C'est lui forever.
C'est son héros.
C'est lui qui doit la coucher, c'est lui qui doit jouer avec elle, c'est lui qui doit aller au parc avec elle, c'est lui qui doit marcher avec elle. Oh. Du coup, moi, quand il vient, je suis là. Super, okay. Je vais pouvoir me reposer tranquille.
Ouais.
Bon, c'est vrai que c'est mon père qui beaucoup lui fait écouter énormément de comptines de son pays.
Ouais.
Parce qu'on en trouve maintenant, c'est facile avec YouTube. Mmh. Tu tapes comptines africaines, ouais, avec des langues, même dans les langues du pays. Et mon père, lui, c'est un fan de l'Afrique en général, mmh, pas uniquement de son pays, mais de l'Afrique en général. Donc lui, les chansons angolaises n'ont pas de secret pour lui. Les chansons, donc il met sur YouTube. Elle adore ça. Donc, quand elle rentre à la maison, elle commence à chantonner ces petites chansons-là. Donc, c'est vrai que mon père a beaucoup ce travail-là et ma mère aussi, en faisant par exemple beaucoup aussi à manger camerounais.
Oui.
Et ça, c'est vraiment ma mère qui a ce côté-là. Donc, c'est vraiment eux qui font le côté conscient. C'est parce que je dis ça parce qu'ils gardent très souvent ma fille. Vu que ma fille va une fois par semaine à la crèche et deux fois, elle reste avec moi, et deux jours par semaine, elle est avec mes parents. Okay. Donc, elle est très souvent, très, très souvent avec eux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une journée, je pense, où il n'y a pas une comptine africaine. Et donc, elle voit les petites filles. Et elle, pour elle, c'est comme elle. Elle voit, ouais, les mêmes petites filles. Parce que maintenant, sur les comptines africaines, sur YouTube, il y a des petits clips. Ils ont créé des clips avec, où on voit le crocodile, où on voit la case, etc. Donc, ça, c'est chouette. Et inconscient. C'est moi. Le côté inconscient, je pense que c'est le côté un peu... je m'en fous un peu de tout. Il n'y a pas grand-chose qui a vraiment d'importance. Comment je vais le dire? Alors, je t'avais mieux dit quand on avait parlé un jour. En fait, moi, mes parents, ils nous ont élevés en Afrique, hein, je parle, parce que quand on arrive en France, leur mode d'éducation a complètement changé. Ils ont été beaucoup plus stricts. Très intransigeant, on va dire. Alors qu'en Afrique, on avait une vie beaucoup plus... tout était cool, tout était libre. On était libre de faire ce qu'on voulait. On n'a jamais connu, je ne sais pas, comme on aime beaucoup ici en France, ou même plutôt en Occident en général, des blocs-portes, des...
cache-prises.
Pas tout ça, des cache-prises. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Nous, c'était... ce qu'on appelle maintenant en France très à la mode la motricité libre,
ouais,
mais quelque part en Afrique la motricité libre elle existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, on n'a pas un parc déjà, on n'avait pas de parc. On est un petit peu notre mère nous porte beaucoup, parce que moi même mon père a été porté quand même par sa mère jusqu'à ses 2 ans, il a été allaité jusqu'à ses 2 ans. Ça, c'est des choses qui se paraissent ouf en France, mais en soi, ouais, moi, c'est quelque chose qui me paraît juste classique. Il a été, ouais, porté au dos pendant de nombreux mois, alors que maintenant, ici, on peut dire « Oh, il ne faut pas trop porter son enfant ». Mais à l'époque, ma grand-mère n'a pas le choix. Hein, il faut bien porter,
oui,
pour aller faire ses activités.
Ouais.
Il n'y avait pas, on a pas
il y avait pas la poussette.
Une tête, un transat, de 15 millions de transats différents. Donc, du coup, moi... Même si je n'étais pas là, je n'étais pas là quand ma grand-mère a fait ça, et que je ne me souviens pas de moi petite, de toute petite en tout cas, pour moi, ça reste dans ma tête de me dire, moi, en Afrique, quand on y allait après pendant 6 ans, on était libre. On n'avait pas, tu vois, on prenait le vélo, on allait faire du vélo, nos parents ne disaient jamais, il faut rentrer à telle heure. On savait que, bah, 17h, on rentrait à la maison de nous-mêmes, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment... garder, c'est le côté waouh, liberté. On a un bébé, il faut qu'il soit libre. Et ça, c'est Mathieu, lui, je vois la différence de nos deux cultures, et on en parle beaucoup d'ailleurs avec mes parents, parce que Mathieu, lui, si je l'écoute, il faut qu'il y ait des cache-prises à toutes les prises, des blocs-portes, des trucs pour bloquer les tiroirs. Alors je dis pas que c'est qu'il faut pas le faire et que et je veux pas paraître la nana qui complètement qui laisse son enfant la hippie. C'est juste que moi je suis derrière mon enfant. Donc, ouais, parce que je peux aussi être à la maison, travailler de la maison, avoir des jours très régulièrement avec elle à la maison. Et quand elle est avec moi, bah, moi, je me consacre à elle. Donc, quand elle veut monter les escaliers, parce que par exemple, je n'ai jamais eu de truc pour barrer mes escaliers.
Barrières.
Elle monte les escaliers depuis qu'elle a 5 mois, elle les monte, les escaliers. J'avais mis deux barrières. Il fallait écouter Mathieu, il fallait tout barricader à la maison. Moi, j'étais plutôt dans l'optique de comme j'ai vu mes parents faire et comme je vois comment c'était en Afrique. Parce que quand j'ai vécu en Afrique, on allait chez nos amis avaient des enfants en bas âge, mais les petits étaient sur ce qu'on appelle une natte, nous avec une natte au sol.
Ouais.
Et puis tu voyais que ça couche d'ambuler partout. Et puis on lui donnait un peu d'attiéké, et puis on lui donnait ça aussi. Après, on parle de la diversification alimentaire, ouais. Il faut donner des purées, etc. Moi, j'ai pas connu ça, ma mère n'a pas connu ça non plus, la diversification alimentaire. Ma mère, elle me dit, moi, limite, à 5 mois, vous mangez déjà de la sauce gombo.
C'est ça, tu manges du riz.
Exactement.
Ouais.
Donc après, je dis pas encore une fois que c'est ce qu'il faut faire, rester en France, rester avec votre pédiatre, ce qu'il vous dit. Mais moi, c'est vrai que j'ai tellement entendu ça toute ma jeunesse, toute ma vie, et j'ai tellement vu ça quand j'ai vécu en Afrique pendant 6 ans, qu'en France, à chaque fois, je me sens parfois... Toi, j'en parle pas trop après, moi, des trucs très précis sur la maternité sur Instagram, parce que je sais qu'on me dira « Mon Dieu, t'as pas mis de bloc-porte. Mon Dieu, parce que tu vois, je vais montrer une fois qu'elle joue à des jeux, on me dit tout de suite « Mais elle met pas la bouche ?» Bah, si, en fait, elle met à la bouche, mais...
C'est pas grave,
parce que bien évidemment, je ne donne pas une cacahuète à mettre dans la bouche, bien évidemment, je ne donne pas un bouchon de stylo à mettre dans la bouche. Je donne des choses à sa disposition qui ne sont pas graves. Je veux dire, si quand je donne du riz, si elle veut me mettre le riz à la bouche, qu'elle le fasse. Si elle lui donne de la pâte à modeler, si elle veut mettre à la bouche. Tu vois, moi, et moi, je repense toujours à ma mère qui me disait, vous, quand vous étiez petit, vous étiez tout le temps à droite et à gauche au Cameroun, et mon frère, son grand jeu, parce qu'on habitait en Afrique, et il y avait parfois des cancres là, donc des cafards, dans notre maison. Il y avait aussi des lézards dans notre maison, enfin bref. Et mon frère, lui, son grand jeu, c'est de courir après les cancres là, les prendre et les mettre dans la bouche.
Ouais.
Alors oui, c'est dégoûtant, oui, bien sûr. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ma mère, c'est la première à dire « Ah, mon Dieu ouais. ». Mais en soi, elle ne lui a jamais interdit de le faire. Il a compris à force que, tu vois, mon fils, là, toi, c'est un être vivant, c'est pas ouf de mettre ça dans sa bouche. En plus, il aime plutôt les lieux où c'est pas très propre, donc, tu vois. Mais il n'y a jamais eu le côté, on t'interdit de le faire.
Mm.
Et ma mère, pour elle, c'est quand elle voit Alba mettre dans la bouche, elle la regarde. Et moi, je les vois parfois, je vois Mathieu qui regarde ma mère en mode, mais il faut lui dire de l'enlever de la bouche. Et mon père et ma mère, ils sont là.
Mais
pourquoi c'est pas dangereux. Mathieu, elle va prendre une pâquerette, elle met dans sa bouche. Mathieu, il faut lui enlever de la bouche. Non, non, moi, je suis à côté. On est toujours à côté d'elle. Donc, on voit s'il y a un souci de danger. Et pour le reste, profite de la nature, profite de la vie, fais ton immunité, gambade. Et Mathieu, maintenant, me dit parfois, bah, tu vois, j'aurais pas pensé, mais l'avoir laissé libre comme ça, maintenant, c'est une enfant qui est tellement autonome que ça nous surprend même de la voir si autonome, de pouvoir rester 1h30 à 19 mois, jouer toute seule de son côté. Parce qu'elle a tellement été habituée à « bah vas-y, tu montes les escaliers, pas de souci, par contre maman est derrière toi, mais vas-y, monte les escaliers ». On lui interdit peu de choses en fait. Elle veut monter sur la table si tu veux. Parce que ça aussi, ma grand-mère disait toujours à mes parents quand elle gardait mon frère, très souvent au Cameroun, elle gardait mon frère, bon, comme tous les grands-parents, quoi, comme, en tout cas comme beaucoup de grands-parents. Mmh. Et à la fin du week-end, mon père venait récupérer son fils et il disait « Tout s'est bien passé ?» Et ma grand-mère répondait toujours « Très très bien, il a bien travaillé. » Mon père il disait « Ok. » Et quand il voyait après ses sœurs, en même temps en Afrique, il y a toujours plein de gens dans la maison, il y a les sœurs, il y a les cousins, il y a la famille, il y a les amis, de l'aide des amis, qui disait à mon père, ah bah Brice, alors il est monté sur la table, il a jeté tous les assiettes qu'il y avait sur la table, il a tiré la nappe et tout est tombé par terre. Grand-mère, elle a fait à manger, il a mis les pieds dans le plat, alors qui était posé au sol. Et ma grand-mère, elle s'en foutait. C'est-à-dire que pour elle, c'était ok, je rangerai après derrière lui. Et en France, on va dire oui, c'est mal élevé, etc. Mais dans tous les cas, mon frère, maintenant, il a 33 ans. Est-ce que vous pensez qu'il tire encore une nappe pour enlever? Bien sûr que non. Est-ce qu'il monte encore sur la table? Il a très vite arrêté ça. Mais on l'a laissé libre. On l'a laissé libre de monter aux arbres. On l'a laissé libre de monter sur la table. Et ben moi, Alba, c'est pareil. On viendrait chez moi, on verrait une petite fille qui, parfois, est debout sur la table. Mais moi, je suis à côté. Ouais. Et je lui dis, vas-y, si tu veux. Si t'es dans ton envie de grimper en ce moment, eh ben, grimpe. Après, il y a d'autres façons de faire. On peut très bien acheter des modules, acheter des trucs. Mais moi, je suis toujours dans mon truc de me dire, mes parents, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas tout ce qu'on a là, des modules, non, des ci, des ça. On fait avec ce qu'on a. On a un arbre, et ben on monte dessus. Et ben moi, c'est ce que je fais avec ma fille. Il y a un arbre, tu veux monter, bah tu montes si tu veux. Maman, il sera là. Papa, il sera là. Donc, je pense que c'est ça vraiment le côté inconscient de l'éducation africaine. C'est vraiment le côté liberté. Tu es libre. Et je pense aussi le côté, la phrase que mon père disait quand j'étais plus, quand j'avais un peu de mal à tout gérer quand j'étais au tout début jeune maman, c'était il faut un village pour élever un enfant. Et franchement, c'est la phrase qui me suit le plus parce qu'en France, on a ce côté de vivre dans l'entre-soi, oui. De vivre sa parentalité dans l'entre-soi. Donc, je sais pas moi, on va dire un couple, un homme et une femme, ils ont un enfant, ils vivent chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, à trois. Et en fait, tout repose sur les deux parents. Ouais. Alors qu'en Afrique, encore une fois, mon père me dit toujours, mais c'est un concept qu'en France, on a de vivre dans l'entre-soi, d'où aussi peut-être le fait qu'on se sente parfois en burn-out ou en dépression postpartum, ou qu'on a l'impression qu'on ne peut pas tout gérer. Moi, j'ai ressenti ça. Et très vite, mon père m'a dit, bah, amène-nous Alba. Quand tu as besoin de dormir, amène-nous Alba. Et moi, j'étais là, bah non, c'est moi qui décide de faire un enfant, je dois assumer.
Mon père, les gens toujours, que je connais ne font pas ça.
Mais les gens que je rentre demain ne font pas ça, ils restent et puis ils vont lutter et puis c'est pas grave, ils feront la gueule s'il faut. Mais et mon père il me dit mais tu crois que ma mère qui a eu 9 gosses, elle était seule avec mon père dans une maison avec 9 gosses? Non, il y avait du passage toute la journée. Le plus grand qui comme donc lui c'est le plus grand qui s'occupe des plus petits, la cousine éloignée qui vient passer 2 mois, 3 mois dans la maison et qui s'en occupe. Ils vont dormir, on allait dormir parfois chez l'oncle parce que il y avait le cousin qui revenait de France et on voulait aller le voir, donc on allait dormir chez eux. Et il n'y avait pas ce côté de la culpabilité du parent de se dire il y a d'autres personnes que moi qui élèvent mon enfant, parce que dans un village on élève tous ensemble. Mes parents, mon père a vécu dans un village. En Afrique, c'est très souvent comme ça. On vit dans un petit village où on connaît tout le monde et les cases sont un peu ouvertes, les maisons sont un peu ouvertes entre tout le monde. Et mon père, franchement, ça m'a fait un lâcher-prise. Alors, c'était tard. J'ai entendu cette phrase finalement. Alba, elle avait 8 mois. Oui. J'aurais beaucoup aimé d'en parler à mon père bien avant parce que ça m'aurait évité les 8 premiers mois où ça fait dur pour moi de gérer et ma vie de famille et mon entreprise, et je me sentais tout le temps oppressée, tout le temps surmenée. Du jour où mon père m'a dit ça, ça a lâché un truc en moi, et c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, bah, quand mon père me dit, bah, ça te dit qu'on est Alba ce week-end? Allez-y. Allez. Parce que je sais qu'elle est heureuse avec vous, elle adore être avec vous. Et en fait, qu'est-ce qui est bon finalement dans l'éducation, c'est aussi qu'elle voit d'autres choses, et pas uniquement papa, maman, qui en plus parfois sont énervés parce qu'ils sont fatigués. Parce que moi, j'ai un bébé en plus qui a fait ses nuits, qui a commencé à faire ses nuits à 17 mois. Donc, c'était 17 mois très longs sans sommeil. Donc, les crises, les conflits dans le couple, bah, ça arrive. Oui, et c'est récurrent à force. Et on se retrouve, on a du mal à se retrouver, etc. Du coup, moi, ça a changé totalement ma vie. On va dire que c'est 2 choses de façon inconsciente. C'est tu peux être élevé par n'importe qui d'autre que moi. Maman, elle sera toujours là. Papa sera toujours là. On t'aime plus que tout au monde. Mais tu as aussi une famille sur qui tu peux compter, et dont tes grands-parents, sur qui tu peux compter, et qui peuvent être là dans ton quotidien, tous les jours. Mes parents, ils sont très souvent là, ils prennent beaucoup de place dans notre vie, et j'en ai besoin moi aussi. Je suis un peu une fille à papa-maman, donc j'ai besoin d'eux, et Alba a besoin d'eux de la même façon. Et depuis, je trouve que même nous, dans notre couple, ça a lâché un truc. Parce que depuis, c'est... Bah, on se rend pas à tête de se dire « Oh, tu penses qu'on l'a mise 2 fois de suite en week-end ? Ça fait un peu... Oh, ça fait un peu, on n'a pas envie de notre enfant. » Non, ça fait juste un peu des parents qui ont envie de se retrouver un petit peu et puis qui profiteront d'autant plus quand elle reviendra.
Ouais, clairement.
Donc, ouais, je veux dire ça, c'est vraiment le côté « Il faut un village pour élever un enfant. » Je trouve que c'est un truc qui est très peu fait en France. On vit dans l'entre-soi. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas pour ma fille.
Et justement, enfin, je pense à tout ça et à ce que tu disais qu'à partir des 8 mois, tu as commencé à. Enfin, tu as ressenti quelque chose qui a fait que tu t'es libérée. Mais ouais. L'autre sentiment que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère?
Encore une fois, vous avez vu le petit truc. je me suis sentie maman. Ah oui, c'est ça. Je me sentis maman vraiment. Je pense que c'est le jour, et c'est même pas que je pense, et j'en suis sûre, le jour de la gender reveal. Donc, pour expliquer brièvement, c'est une fête très américaine.
Oui,
très américaine. où on va demander donc au gynécologue d'écrire le sexe du bébé à venir sur un bout de papier et à mettre dans une enveloppe. On n'ouvre pas, ni le père ni la mère ne l'ouvrent, le donne à quelqu'un de confiance qui va lire le sexe et va donc créer toute une fête. Donc, ce n'est pas une baby shower, c'est vraiment une gender reveal, c'est une fête pour savoir la révélation du genre, en fait. C'est ça, c'est la révélation du genre. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a fait avec Mathieu. On a demandé à notre sage-femme de mettre le sexe du bébé dans une enveloppe. Et je l'ai donné à ma belle-fille, cette enveloppe, j'ai donné à ma belle-fille, donc à la fille de Mathieu, qui est partie dormir directement ce soir-là même chez ma sœur, donc chez Marisa. Elles ont ouvert à deux l'enveloppe toutes les deux, elles sont mises à pleurer, etc. Et elles ont préparé donc le week-end, donc on a fait ça le jeudi, parce que nous, on ne voulait pas faire ça 6 mois à l'avance, hein, non, non, enfin 6 mois plus tard. Hein, non, non. C'est, on a eu le sexe le jeudi, nous, on n'a pas ouvert l'enveloppe avec Mathieu. Et le jeudi soir, ma belle-fille est allée dormir chez Marisa. Elles ont eu tout le week-end pour préparer, donc une fois qu'elles ont eu le sexe. Et donc, c'était une super journée, c'était un super dimanche où il faisait super beau. En plus, au mois d'avril, il faisait hyper beau. D'ailleurs, j'ai une IGTV sur Instagram où je montre la gender reveal.
Je la mettrai dans la description.
Et c'était vraiment, c'est magique. Moi, je dis tout le temps, c'est bien une fête américaine qu'il faut faire, c'est pas Halloween. Mais alors, la révélation du genre en famille, entre amis, c'est magique. Ça n'a rien à voir avec on ouvre. Après, je ne sais pas, parce que je n'ai pas connu le côté d'ouvrir à deux. Mais tu sais que deux personnes de chair à ton cœur savent qui se cache dans ton bide. Et quand, bah, après, du coup, Marza avait acheté des fusées. Et du coup, bah, il y avait, il me semble, cinq fusées. Donc, trois qui doivent être d'une couleur qui dira le sexe et deux où c'est perdu, quoi. Et tu commences à faire voler une fusée. Tu vois que c'est rose. Une deuxième, ah, tu vois que c'est bleu. Une troisième, tu vois que c'est rose. Une quatrième, tu vois que c'est rose. Et là, tu comprends que c'est donc une fille. L'émotion qui te submerge, elle est juste incroyable. Et comme nous, on avait déjà le prénom de la fille, mais on n'avait pas le prénom de garçon, on savait même pas si on savait même pas quel prénom on aurait donné à un garçon, et toujours pas à ce jour d'ailleurs. Du coup, du moment où on a vu tout ce rose, on a tout de suite crié. Donc, en fait, finalement, on voulait que ça on gardait secret le prénom, mais finalement, pas du tout. On a crié Alba, Alba. Donc tout le monde a compris que c'était Alba. Et c'est là que j'étais mère, puisqu'on a fait une super soirée. Je suis allée au lit. Et le matin, je me suis réveillée, le lendemain matin, en touchant mon ventre et en me disant, coucou ma fille, maman est là. Alba, comment tu vas? Maman est là. Maman, elle t'aime très fort. Et c'est la première fois que je le disais vraiment verbalement. Donc j'étais à mon cinquième, sixième mois, quoi. C'est là que je me sentis vraiment maman.
Ah,
Vraiment
c'est
maman.
mignon. Ça me donne, alors que tu me l'as déjà raconté, mais ça me donne quand même des frissons,
Ah
tu
ouais,
vois.
franchement, ouais, c'est un super bon moment. Et si j'ai un deuxième enfant, c'est sûr que je ferai la même chose. Une gender
Ah.
reveal, c'est. Et puis partager ça avec ses proches, c'est beau, je trouve.
Ouais, clairement. Et dernière question, la fameuse. Est-ce que tu as une anecdote ou un conseil à nous partager concernant toi et ta maman? Ou ton papa, vu que vous êtes quand même proches?
Une anecdote ou un. J'en aurais tellement. Moi, je dirais que l'anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est plus un événement de notre vie. Nos parents sont. Alors, ça fera bizarre parce que pour les personnes qui ont écouté la matrescence, donc le podcast sur maternité dans lequel on a été interviewé, on entend que je parle beaucoup de mes parents qui étaient très durs, où il n'y a pas eu de je t'aime, il n'y a pas eu de câlin, il n'y a pas eu tout ça avec mes parents. Mais ça n'empêche pas qu'avec mes parents, on est très, 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 très proches, puisque moi, je ne leur en veux absolument pas de ça. Je pense que c'est dû à une éducation aussi d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas eu tous les outils que nous, on peut avoir aujourd'hui sur les neurosciences, etc., etc. Mais nous, nos parents, ils nous ont toujours apporté ce côté, cette liberté. C'est, vous êtes libre d'être qui vous voulez et ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez. Et je me souviens parce que quand on habitait au Maroc, mes parents ont voulu déménager au Sénégal. Et mes parents ont toujours été un peu à contre-courant. Et pour déménager, pour eux, c'était, on va mettre, plutôt que partir en avion comme on faisait habituellement, on va mettre dans notre voiture toutes nos affaires, donc uniquement des fringues, parce que finalement, mes parents ont toujours été comme ça, on laisse tout dans la maison qu'on avait. Et puis la personne qui louera la maison ou qui achètera la maison, elle achète les meubles qui vont avec. On n'est jamais, on nous a jamais appris à aimer le matériel. Jamais. Donc on avait mis toutes nos affaires sur le toit de la voiture, et puis nous voilà à faire la traversée du désert, donc du Maroc à Dakar.
Ah, c'est génial.
On a déménagé comme ça. Et si je raconte ça, c'est parce que c'est vraiment pour moi cet événement qui a duré quand même 3 jours, puisque c'est 3 jours de traversée de Casablanca jusqu'à Dakar, avec du coup nos valises sur le toit de la voiture et nous dans ce désert du Sahara, etc. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que pour moi, c'est la preuve que nos parents nous ont toujours dit « Soyez qui vous voulez », parce que tout le monde leur a dit « Mais vous êtes fous de faire un déménagement avec 3 enfants qui ont 10 ans. Vous êtes fous de faire ça. En plus, à l'époque, le désert, on pensait qu'il y avait des gens qui coupaient la tête avec des sabres. C'était très à la mode, ce terme-là, de dire les coupeurs de tête. Mmh. Alors ça, qu'est-ce qu'on me disait ça à l'époque? Les coupeurs de tête, les Touaregs qui vont sortir et qui vont vous... Non, enfin, ça se passe pas comme ça. C'est contrôlé aussi, hein, la traversée du désert. On a un guide, on y va en convoi, donc on n'est pas les seuls. On est tout un convoi de plusieurs voitures qui ont le même objectif et on se suit. Il y en a qui s'arrêtent en Mauritanie, il y en a qui vont plus loin. Et on a un guide. Mais c'était la liberté. Faut imaginer qu'on est dans une voiture, on est peut-être 10 voitures, seules dans un désert et en plus dans une immensité. Ouais. Et mes parents, tout le monde leur disait « Mais vous êtes malade, vous êtes fou, avec des enfants. » On était les seuls enfants. Avec des enfants. Et eux, ils ont toujours vu, mais ça va être une expérience géniale pour eux.
Bah oui, clairement.
Ils ont toujours été à contre-courant. Et toujours maintenant, à 60 ans, si vous saviez comment ils vivent, etc., vous diriez « Ah ouais, c'est... » Mais pourquoi alors que normalement, nous, en France, on aime bien se dire on a son travail, on a son salaire, on a sa maison. Mes parents ne nous ont jamais appris à vivre comme ça. Jamais. Et je dirais que c'est anecdote parce que c'est ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, en tout cas à ma fille, à ma belle-fille, c'est de dire soyez qui vous voulez, soyez libre. Et si on vous dit plus tard, mais vous êtes fous de faire ça, eh ben ouais, on est fous de faire ça, mais on va le faire quand même. Et pas, alors que moi, plutôt, en France, on a plus tendance à se dire peut-être ah, mais je suis un peu frileux. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment tu as osé l'entrepreneuriat? Moi, je ne me pose pas cette question. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. Parce que mes parents nous ont fait la traversée du désert, ils l'ont fait. Et ça, c'est une anecdote parmi 15 millions de choses qui nous ont fait vivre dans notre vie. Dormir dans des toits, sur des toits, au fin fond de Marrakech. Parce que ce soir, on aimerait juste regarder les étoiles. On ne dormira pas dans une chambre d'hôtel ce soir. Dormons sur un toit pour pouvoir regarder les étoiles. Ok, papa, maman, on dort sur un toit cette nuit-là. Donc, c'est que des expériences un peu loufoques qu'ils nous ont fait, qui prouvent qu'ils ont toujours été profondément eux-mêmes et sur la même longueur d'onde toutes ces années. Ouais. Et c'est ce qu'ils nous ont transmis quand même. Donc, je dirais ça et j'espère que je transmettrai ça à Alba, d'être libre, d'être qui elle veut.
Ah, c'est beau, là, tout ce que tu as raconté, les anecdotes, elles sont vraiment super. Vraiment, pour le coup, ça donne envie, en fait. Et ça donne envie de vivre des choses comme ça, de sortir de sa zone de confort.
Exactement.
D'éviter de vivre dans la peur, en fait. Et tout simplement d'oser, quoi.
Voilà. Mes parents n'ont jamais eu peur. Et pourtant, si un jour je devais raconter la vie de mes parents, c'est des hauts et des bas, financiers, pas financiers, etc. Mais toujours avec la certitude que tout va bien.
Ça va aller.
Que tout va bien, tout ira bien. Et c'est quelque chose qu'ils disent toujours maintenant, tu vois, tout ira bien. Et quand je vais leur dire, mais ah, ça va pas là, tout ira bien. Et ça m'apaise vachement, moi, dans ma vie au quotidien.
Ah, c'est cool. Bah, c'est bien de terminer sur cette petite note d'optimisme. Ouais. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment génial. Vraiment, Isadora, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. C'était super intéressant. C'était beaucoup plus long que d'habitude. Et en fait, j'ai même pas envie
même
de...
pas à une heure.
Ouais, et j'ai même pas envie de couper en fait parce que tout ce que tu as raconté était vraiment super cool. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour ta participation.
Merci à toi parce que clairement, je n'aurais jamais parlé de ça. C'est pas quelque chose que j'aurais partagé, tu vois, et pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que je n'aurais jamais pensé à partager ce genre de choses de ma vie, de ma personnalité. Et c'est vraiment quand tu m'as envoyé ce message, je me suis dit, je t'avoue, encore quelqu'un qui veut me faire de la pub de son podcast, parce que ça arrive un peu tous les jours.
Ouais.
Mais j'étais curieuse et je me suis dit, ça change. Et j'ai écouté, je me suis dit, ah non, moi je veux apparaître parce que c'est ça change. Je pense qu'on a besoin aussi d'entendre ça. Et en plus, nous, en tant que, comme on m'a dit un jour, afro-descendante, je ne savais pas que j'étais une afro-descendante, je n'avais jamais entendu ce terme, comme afro-descendante, ça fait du bien de voir que parfois, nous, entre nous, on se comprend plus facilement que les gens qui sont français, même si je ne dis pas on est françaises nous aussi, mais pas d'origine en tout cas africaine. Et parfois, j'ai l'impression d'être un peu une illuminée dans la façon dont moi, je vais imaginer tellement de choses de ma vie, contrairement à quand j'en parle à des amis africains qui, eux, sont... c'est normal.
Oui, c'est
mais
vrai.
Encore une fois, tout dépend de qui était là-bas et qui est d'ici aussi. Donc, il y a plein de... Donc, ton podcast, je trouve que j'ai hâte d'entendre de nouvelles personnes et voir comment chacun d'entre nous on vit un petit peu nos origines africaines, quoi.
Ouais. Non, vraiment, merci à toi. Super gentil.
Je partagerai sur les réseaux sociaux avec grand plaisir.
Ah, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Bah écoute, encore une fois, merci. Et puis, je te dis à bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayenene Podcast. À tout de suite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.